Bonsoir, chère Lucine, vers où nous amène le petit salon ce soir?
Alors, vers les premières assises du CIPAC, la Fédération des professionnels de l'art contemporain, lundi dernier ont eu lieu les premières assises du CIPAC. J'ai visité à cette occasion leur site et remarqué que parmi les réflexions proposées, il y en avait une intitulée « Acquérir, numériser, conserver et restaurer les œuvres d'art audiovisuelles ». Je me suis souvent posé la question du devenir de la vidéo d'art en dehors des écrans, tablettes et autres installations technologiques qui leur servent de support dans les expositions. Je me souviens l'an dernier avoir visité à Pantin un lieu dédié à la jeune création et une des organisatrices m'expliquait la grande difficulté des artistes vidéastes à vendre leurs œuvres, disons encore plus grande difficulté car vendre tout court pour un jeune artiste c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs parmi les artistes exposés dans cette galerie, celui qui avait été le plus vendu à cette occasion-là était un peintre sur verre, pas très représentatif des choix des jeunes artistes aujourd'hui qui choisissent peu le médium de la peinture. Alors comment vend-on une œuvre vidéo ? Les institutions en achètent, on en voit dans les musées, par exemple viennent de se clore deux expositions largement dédiées à la vidéo au Palais de Tokyo à Paris, celle de Clément Cogitor et dans un tout autre genre celle de Mika Rothenberg, mais les collectionneurs privés, eux, boudent le médium. Alors pourquoi ? Dans les foires d'art contemporain, les vidéos sont souvent mal installées. Peu de collectionneurs prennent le temps de les regarder en entier. Il faut remarquer quand même que de plus en plus de lieux dédient désormais un espace spécifique à l'art vidéo. C'est le cas par exemple de la foire d'Art Basel à Miami. Par ailleurs, une œuvre vidéo est souvent très chère. Elle demande beaucoup de temps de création et d'élaboration. Mika Rothenberg, par exemple, montrait au Palais de Tokyo des vidéos représentant un élevage d'huîtres à perles en Chine, pour lesquelles elle a voyagé et passé beaucoup de temps là-bas. Ensuite, parce que la vidéo est facilement reproductible, facilement diffusable, et cela va à l'encontre de l'idée selon laquelle on posséderait une œuvre unique chez soi. Et puis aussi parce que son exposition dans un cercle privé est une vraie question. Est-ce qu'on achète du matériel spécifique ? Est-ce qu'on allume et on éteint son écran en rentrant et en sortant de chez soi. Enfin, dernier problème, celui de la conservation des vidéos, qui sont des supports fragiles. On me racontait cette histoire d'un couple de collectionneurs parisiens qui embauche, je parle comme Corinne Rondeau, j'ai le même accent, qui embauche tous les ans des étudiants pour faire ce travail de renouvellement et de restauration des fichiers. Ils leur demandent d'appeler les galeries, de demander des nouveaux DVD, des nouveaux fichiers, parce que les leurs ne fonctionnent plus. Pas simple donc pour un artiste vidéaste, alors même que la vidéo est partout dans l'art contemporain. Alors certains vont voir du côté du cinéma expérimental ou même du cinéma tout court. C'est le cas de Clément Cogitor, par exemple, par stratégie, peut-être.
Peut-être. Alors, quand même déjà dire que la peinture a quand même droit de citer à nouveau très largement parmi les jeunes artistes, avec Bonnet, confirmé.
Oui, peut-être juste même pour trop, puisque maintenant c'est redevenu tellement à la mode qu'on va passer à une quantité de croûte invraisemblable.
Voilà, on aura l'occasion d'en reparler pour un prochain petit salon, l'éternel retour.
De la peinture,
de la croûte aussi.
Mais ça peut être positif.
Non, mais après, sur ces
questions. Il y a de la très bonne peinture, ceci dit.
Très bonne peinture est généralement mauvaise aujourd'hui. Alors, faut savoir.
Autre phrase à noter, la très bonne peinture est généralement mauvaise.
Je vais arrêter avec les médicaments.
Les aphorismes de Corinne Rondeau, une édition spéciale de la dispute édition. Non, mais cette question, alors, il y en a plusieurs en une, mais si on commence par celle de la vidéo, la difficulté ou les questions posées par la collection et l'achat donc de vidéos, Frédéric Bonnet, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Non, moi je suis pas vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le sujet. Sur le volet commercial, commercialement, ça marche la vidéo. Au début des années 2000, une période où la vidéo était très très à la mode. Donc, sur tous les stands de foire, de toutes les foires, il y avait effectivement des moniteurs vidéo. Là. Sauf que, effectivement, la vidéo est un médium qui se prête peu à être montré sur un stand de foire, parce que la vidéo, c'est un médium qui impose son temps. Et c'est le seul médium dans l'art qui impose une temporalité. Elle dure 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Alors, aller montrer un film de David Clairbout de 35 minutes, comme le fait courageusement Micheline Schweisser régulièrement sur ses stands, c'est compliqué, mais elle le fait quand même, et il y a quand même des galeristes qui le font, mais effectivement, la part de vidéos montrées sur le marché, dans les salons, a considérablement réduit, ce qui ne veut pas dire que la vidéo ne se vend pas. La vidéo se vend aussi bien que les autres médias. Il y a un marché de la vidéo. Il y a des collectionneurs spécialisés dans la vidéo. Évidemment, à Paris, Jean Conrad et Isabelle Lemaître sont les plus connus. Ils n'achètent que de la vidéo. Donc voilà, il y a un marché. Il y a des collectionneurs. Il y a des ventes. Il y a même à Barcelone une foire spécialisée dans la vidéo et elle existe depuis longtemps. C'est la foire Loop qui a lieu tous les ans au début du printemps. Et on n'y montre que de la vidéo. Elle attire un public, elle attire des collectionneurs, il y a des transactions qui s'y font. Donc voilà, ça marche. Par contre, concernant la vidéo, me semble-t-il, le problème essentiel, c'est effectivement celui de la conservation et de la monstration. Parce que le plus compliqué à accrocher dans une exposition, c'est la vidéo. Vous pouvez être sûr que 100% des fois, vous avez des problèmes. Vous n'avez jamais le bon lecteur, vous n'avez jamais le bon projecteur, vous n'avez jamais le bon truc de réglage, là, parce que les formats changent tout le temps, les normes changent tout le temps, là, bon, il manque toujours quelque chose, ça va jamais. Donc ça, c'est très compliqué. Et effectivement, pour qui se porte acquéreur, que ce soit privé ou que ce soit institutionnel, avec le temps, vont se poser des problèmes. Qu'est-ce que vous faites de vos cassettes VHS, de la vidéo de Bruce Nauman que vous avez acheté dans les années 80, hein? Et même si elle était en Betamax, en fait, avant la VHS, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Donc, on est passé au DVD, mais même le DVD, ça va finir par disparaître. Bien sûr, donc, il va falloir passer à d'autres formats. Donc, c'est quelque chose sans fin. Et effectivement, on me racontait pas plus tard que la semaine dernière, qu'une institution sud-américaine avait acheté une installation vidéo de Pierre Huyghe au début des années 2000 qu'il n'avait jamais sorti de la caisse. Quand ils ont voulu la montrer il n'y a pas si longtemps que ça, plus rien marchait parce que il y avait le mode d'emploi, ça n'allait pas, je ne sais pas quoi, et puis surtout le matériel était devenu complètement obsolète. Il y a effectivement ça, un vrai problème qui est insoluble et qui, je pense, nécessite d'investir beaucoup dans une maintenance de la collection vidéo.
C'est vrai qu'il y a ce temps à part de la vidéo, c'est une question qui revient souvent dans nos disputes art plastique, c'est le temps passé pour regarder les vidéos en entier dans les expositions, ce qui pose aussi ces questions-là de la façon dont elles peuvent être montrées ou difficilement dans les foires. Il y a un lien particulier du spectateur avec la vidéo comme support artistique, Corinne Rondeau?
Oui, il y a un lien particulier, mais elle est tout à fait... dichotomique entre le rapport à la peinture, par exemple une image fixe ou la photographie, à cause de ce qu'a évoqué Frédéric, à savoir la temporalité. Et puis, quand on a un rapport à l'image mobile, ce n'est pas que l'image qui compte, en fait. C'est dans quelle disposition je la vois. Est-ce que la salle est obscure, parfaitement obscure? Je me rappelle à Bâle, la grande fondation privée où il y avait Steve McQueen.
Beyeler.
Non.
J'étais à la Schaulager, pardon.
Schaulager, des salles, mais prodigieuses, avec des horaires de programmation.
Ouais.
À telle heure, ça commence, et vous ne rentrez pas quand ça a commencé. Donc, on avait mis... Steve McQueen avait... imposer un dispositif cinématographique à horaire. Ce sont les questions qui peuvent se poser aujourd'hui, parce que la vidéo, on voit bien que les gens restent davantage, parce qu'il y a du son, que le son, avec une image mobile, ça marche mieux, parce qu'on reste très peu de temps. On reste très peu de temps, finalement, face aux œuvres. Et la question de la vidéo, c'est justement aussi un problème de diffusion, parce que c'est aussi la question de la diffusion. Quand je ne l'achète pas, c'est aussi bien que... Pour une part, Frédéric dit « ça se vend », mais pour une part, ça se vend aussi pas. Et c'est bien aussi que ça puisse être des œuvres, enfin, qu'il y ait des œuvres qui ne puissent pas se vendre. Enfin, que l'art ne soit pas totalement soumis au marché, je trouve ça vachement bien. Et que par ailleurs, que la vidéo puisse être un espace dans lequel on reste pour voir les choses, et peut-être aussi réapprendre à voir les choses, indépendamment de la vidéo, dans la question de l'accrochage. Qu'est-ce que je vois? Puisque, par exemple, chez Steve McQueen, il n'y a pas que de la vidéo. Donc, à un moment donné, ou le film, quoi, le vrai film avec le dispositif, où on va mettre des écrans suspendus, où on est plutôt dans l'installation. Donc, la vidéo ouvre, je dirais, beaucoup plus de potentialités que effectivement une image fixe, même si même une image fixe est aussi difficile à accrocher. Mais c'est des questions de temporalité et de Oui, c'est très différent. Puis c'est une variation aussi du spectateur. Quelle temporalité il choisit, qu'est-ce qu'il y a. Puis la question de la conservation, et je dois dire là maintenant, c'est ce qui nous arrive est monstrueux. La question de la Cinémathèque française a déjà posé la question lors de Colotte il y a 2 ans, je crois, où l'INHA a mis en œuvre un certain nombre de réflexions et de colloques.
L'Institut national de l'histoire de l'art.
Sur justement la disparition des supports numériques, où il y a à peu près 20 ans de la mémoire qui commence à s'effacer. Bah écoutez, vive la pellicule, hein.
Ouais, et les fichiers numériques, c'est ça qu'on va vendre, les fichiers. Alors, il y a quand même, dans l'acte d'achat, il y a quand même aussi, ce qui pose problème pour tous les œuvres reproductibles, c'est-à-dire, quelle est la physicalité de ce qu'on achète? Et si on est effectivement acheté un fichier qu'on vous envoie par mail, dire voilà, c'est comme ça que j'ai reçu mon œuvre, ça change quand même, mais aussi la donne, Corinne.
Oui. J'en parlais avec une artiste, c'est quand même étrange d'acquérir une vidéo. C'est pas le même rapport au quotidien. Un tableau, une photo, vous vivez avec eux, vous pouvez les oublier. La vidéo, c'est se rappeler que vous l'avez pour la mettre, et peut éventuellement, quand on est chez un grand collectionneur, il y a des dispositifs qui sont en œuvre tout le temps, qui tournent et tout, parce que le grand collectionneur, c'est celui qui se vit dans un musée aussi. Sa maison devient une espèce de cabinet... Voilà, proche du musée parfois. Mais c'est vrai qu'il y a ce rapport à l'objet n'est pas le même parce qu'il y a une dématérialisation déjà faite par l'image.
Oui, Frédéric Bonnet.
En même temps, l'art conceptuel nous a montré depuis longtemps qu'on pouvait acquérir une œuvre qui était dénuée de toute physicalité.
Oui, mais alors c'est très différent de se dire j'ai acheté rien, du vide, que d'acheter un film que je dois voir de temps en temps. Enfin, pour moi, j'entends ce que vous dites, hein, Frédéric, sur la question de l'art conceptuel. Ça m'intéresse d'avoir cette idée pour y penser de temps en temps. Et même si elle n'est rien et qu'elle n'est qu'une proposition, et qu'éventuellement un jour je la réaliserai, plutôt que cette chose que je pourrais avoir, et c'est bizarre parce que je pourrais avoir un film et je ne la regarderai pas comme un DVD d'un film que j'ai vu au cinéma. J'ai pas le même rapport à la vidéo qui fait à quel moment cette chose-là doit sortir et qui n'est pas le même rapport, qui n'est pas le même plaisir du tout.
Non, ça c'est vrai, ça n'est pas le même type d'image, parce que ça n'est pas produit pour le même type de public et pour le même type de lieu. Ça n'est pas produit seulement pour un écran, c'est produit pour un dispositif spécifique de monstration. Donc effectivement, on a forcément un rapport qui est complètement différent à l'image.
Et le rapport du propriétaire est différent aussi.
Absolument.
Bien, eh bien voilà, un petit tour sur cette question de la vidéo dans l'art aujourd'hui, qui nous permet de refermer les rideaux du petit salon.